Merci d'écouter RFI 13h en temps universel. Il est 9h à Port-au-Prince. Dernière demi-heure de RFI Midi consacrée à l'actualité d'Haïti et des Amériques. On va revenir sur ces nouvelles violences en Haïti, des tirs nourris dans la capitale hier et la transition politique qui patine. On parlera également de ce remaniement au Pérou après la démission de 6 ministres et du décès de Maryse Condé, grande auteure francophone originaire de la Guadeloupe. On y reviendra aussi avec nos confrères de La Première. Mais d'abord, le journal, l'actualité internationale. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour Anne, bonjour à tous. Dans l'actualité, l'investiture à Dakar de Bassirou Diomaye Faye, devenu officiellement le 5e président du Sénégal après avoir prêté serment. Dans son discours, il a préconisé plus de solidarité entre pays africains face aux défis sécuritaires. Un crime lâche qui ne restera pas sans réponse. Déclaration du président iranien après les frappes imputées à Israël hier à Damas. Elles ont fait 13 morts, dont 7 membres des gardiens de la révolution iranien. Et après cette fois les frappes israéliennes qui ont tué 7 collaborateurs d'une ONG dans la bande de Gaza hier, le Premier ministre Benjamin Netanyahou admet une frappe israélienne non intentionnelle. Le bilan des frappes imputées à Israël hier à Damas est alourdi avec 13 morts, dont 7 membres des gardiens de la révolution iranien. Ce crime lâche ne restera pas sans réponse, a affirmé ce matin le président iranien Ebrahim Raisi. Israël n'a pas confirmé sa responsabilité. De leur côté, les États-Unis ont assuré qu'ils n'étaient pas impliqués dans ce raid. Guilhem Deltey a recueilli l'éclairage d'un spécialiste de la région, Joseph Baout, de l'université américaine de Beyrouth. Il évoque un élargissement du front.
Ce qui est intéressant depuis un moment, et c'est peut-être la nouveauté, c'est que le front nord, c'est-à-dire ce qu'on appelle le front libanais en général, ou le front d'Israël avec le Hezbollah, est de plus en plus en train de devenir un front nord élargi au Liban et à la Syrie. Et les rumeurs ou les plans qui fuitent d'Israël sur une action éventuelle vis-à-vis du Hezbollah disent que peut-être cette fois, l'armée israélienne engagerait le Hezbollah en Syrie directement ou en Syrie et au Liban. Et donc je pense que ce genre de message aujourd'hui confirme un tout petit peu cela. On sait aussi par ailleurs que le Hezbollah et l'Iran se préparent de plus en plus à une action israélienne, si elle avait lieu sur le front nord, qui engagerait aussi le territoire syrien. Donc je crois que c'est un tout petit peu là la nouveauté.
Joseph Baout dirige l'Institut Issam Fares de politique publique et de relations internationales à l'Université américaine de Beyrouth. Benjamin Netanyahou admet une frappe israélienne non intentionnelle après le raid qui a tué hier 7 collaborateurs de l'ONG américaine World Central Kitchen, hier dans la bande de Gaza. De son côté, l'armée israélienne a promis d'ouvrir une enquête. Les réactions ont été très nombreuses, parmi d'autres celles de Londres qui demande à Israël des explications transparentes. Bassirou Diomaye Faye était il y a 2 semaines encore un candidat de l'opposition en prison avant d'être élu dès le premier tour de la présidentielle au Sénégal. La cérémonie de prestation de serment vient d'avoir lieu à Dakar. Bassirou Diomaye Faye a été investi 5e et plus jeune président dans l'histoire du Sénégal. Et en Égypte, le président Abdel Fattah al-Sissi a prêté serment ce matin au Parlement, lui pour son 3e mandat à la tête du pays. En Haïti, les rues de la capitale Port-au-Prince en proie à de nouvelles violences. Les gangs ont lancé des attaques simultanées dans la capitale, à Blaise Jounaïdi, comme depuis plusieurs semaines, contre des écoles, des hôpitaux, la police et aussi des lieux de pouvoir.
Oui, les tensions se concentrent dans le quartier du Champ de Mars et du Palais National, l'ancien palais présidentiel inoccupé depuis l'assassinat de Jovenel Moïse en 2021 et depuis le mois dernier dans le viseur des gangs. Des affrontements y ont opposé hier des agents de la police et des forces armées à des membres d'une coalition de gangs. Bilan, un blindé de la police incendié, au moins 4 officiers de police blessés et 4 membres de gangs présumés tués. Dans le même temps, un établissement scolaire, le petit séminaire Collège Saint-Martial, a été assiégé et en partie incendié.
Et pendant ce temps, Abla, la mise en place du Conseil présidentiel de transition tarde toujours.
Oui, au milieu de cette nouvelle flambée de violence, le Conseil des ministres devait nommer officiellement les membres du Conseil par décret. Au lieu de ça, le gouvernement démissionnaire a publié un communiqué dans lequel il dit attendre encore un document cadre de la part de la CARICOM. Il invoque aussi le besoin de soumettre son projet de décret à des juristes pour le rendre conforme à la Constitution. Des obstacles de dernière minute perçus comme des manœuvres dilatoires par certains membres de la classe politique haïtienne.
Abla Jounaïdi en direct dans ce journal. Merci à vous. Direction maintenant les États-Unis où dans l'État de Californie, le salaire minimum horaire vient de passer de 16 à 20 dollars. Mais pas pour tout le monde, Nathanaël Vitran. La nouvelle loi concerne uniquement les salariés des chaînes de restauration rapide.
Les entreprises concernées sont celles qui ne proposent pas ou peu de services à table et qui ont au minimum 60 restaurants à travers les États-Unis. Ce nouveau salaire minimum est largement au-dessus du minimum fédéral établi à 7,25 $. La Californie est un État riche. La plupart des grandes entreprises de la tech y sont installées, mais c'est aussi un État cher. Et les démocrates à l'origine de la loi rappellent que, contrairement aux idées reçues, les employés du secteur de la restauration rapide ont en majorité plus de 25 ans. Ils ont des familles qui dépendent de ce salaire. Pour un quart d'entre eux, c'est même le principal salaire du foyer. Du côté des grandes chaînes, McDonald's, Starbucks et les autres, on menace d'augmenter les prix pour absorber ce surcoût. Sur la chaîne CNBC, un chef d'entreprise concerné explique qu'il ne pourra pas se contenter d'augmenter le salaire minimum.
Il nous faudra aller au-delà des 20 dollars. Nos employés qui ont travaillé dur pour se former à d'autres tâches et qui étaient payés au-dessus du salaire minimum vont aussi devoir être augmentés. Ils le méritent. Ce qui veut dire qu'en moyenne, on aura un salaire moyen plutôt autour des 22 ou 23 dollars de l'heure.
Reste que le salaire minimum augmente progressivement en Californie et dans de nombreux États du pays depuis 2018, sans pour autant empêcher les géants du secteur de réaliser des profits records.
C'était Nathanaël Vitran. On reste aux États-Unis où la Cour suprême de Floride vient de valider l'une des lois les plus restrictives du pays en matière d'avortement. Les IVG pratiquées au-delà d'un délai de 6 semaines seront bientôt interdites. Mais la Cour suprême s'en remet aussi aux électeurs de Floride. Cette interdiction fera l'objet d'un référendum lors des élections de novembre prochain. Correspondance à Miami de David Thompson.
Selon la Cour suprême de Floride, la constitution de cet État ne garantit pas le droit à l'avortement. La loi interdisant les IVG au-delà de 6 semaines de grossesse entrera donc en vigueur à partir du 1er mai prochain. Cette loi, qui fait seulement exception pour les cas de viol et d'inceste, avait été votée au printemps dernier à la demande du gouverneur ultra-conservateur Ron DeSantis suite à l'annulation de l'arrêt Roe v. Wade par la Cour suprême en juin 2022, qui laisse aux États le choix de légiférer en matière d'avortement. Mais la décision de la haute juridiction de Floride ne s'arrête pas là. Les juges laissent aux électeurs la possibilité de rejeter cette loi en la mettant au vote par référendum lors des élections de novembre prochain. Or, même en Floride, État de plus en plus conservateur, tous les sondages indiquent qu'une majorité d'électeurs ne sont pas favorables à une interdiction quasi totale de l'avortement. Et les démocrates ne comptent pas rater cette occasion de faire de l'avortement un enjeu de mobilisation pour la présidentielle. Cette décision de Nikki Fried, présidente du Parti démocrate de Floride, prouve exactement ce qui est en jeu dans les urnes en novembre. David Thompson, Miami RFI.
Pour une raison encore inconnue, une fusillade a éclaté ce matin dans une école de Finlande, une école primaire au nord de la capitale Helsinki. Un enfant de 12 ans, élève de 6e, a été tué. Deux autres ont été gravement blessés. Le tireur est un autre enfant du même âge. Vers la légalisation du mariage homosexuel en Thaïlande, les sénateurs ont approuvé ce matin la poursuite de l'examen de la réforme. Déjà adoptée par les députés, cette réforme pourrait entrer en vigueur ces prochains mois. Elle serait pionnière en Asie du Sud-Est. En France, une grève à l'école, la troisième depuis le mois de février. Une partie des enseignants s'oppose au choc des savoirs, à savoir une série de mesures annoncées par le gouvernement. L'objectif est d'élever le niveau des élèves en maths et en français en créant des groupes de niveau. Les enseignants dénoncent un tri des élèves ainsi qu'une mesure inapplicable en raison du manque de professeurs. Du mieux sur le front des inondations. Après une brusque montée des eaux ce week-end, la tendance était à la décrue ce matin en Bourgogne. Les départements de l'Yonne et de la Saône-et-Loire restent néanmoins en vigilance rouge. Ce matin, la vigilance pour la Côte d'Or a été rétrogradée en orange. Et d'autres départements restent à ce niveau d'alerte. Alerte l'Aube, la Nièvre et la Gironde. Enfin, la population d'ours bruns continue de se développer dans les Pyrénées. 83 plantigrades précisément dénombrés l'an dernier, soit contre 76 l'année précédente dans l'ensemble du massif des Pyrénées. Dans les années 1990, l'espèce était menacée. Il ne restait alors qu'une poignée de spécimens. Voilà, Anne Cantner, amie peut-être des ours bruns.
Bah oui, tout le monde aime les ours.
Ah bah oui, on est d'accord.
Merci Gilles Moreau.
Vous écoutez RFI Midi.
On va revenir sur cette disparition dans le monde de la littérature. La littérature francophone a perdu l'une de ses grandes voix. Marie Scondé s'est éteinte aujourd'hui. Elle avait 90 ans. Française, originaire de la Guadeloupe. Elle a longtemps vécu en Afrique de l'Ouest avec sa famille sans jamais arriver à devenir africaine, selon ses propres mots. Marie Scondé s'était ensuite consacrée à l'écriture, abordant les thèmes de l'esclavage, de la colonisation ou encore les identités noires, toujours avec un ton bien à elle.
J'ai été élevée, comme beaucoup d'ancillaires, dans une sorte de moule. Avoir un certain nombre d'idées, de réactions, de comportements pour plaire à l'image toujours prenante d'un colonisateur, d'un maître blanc. Donc, je crois que dès l'enfance, cette soumission à un modèle m'a déplu et que je me suis efforcée de ne pas du tout m'y conformer. Donc, même jusqu'à la fin, je pense que j'ai en moi ce désir de ne pas être ce qu'on attendrait que je sois.
Maryse Condé, invitée de RFI, au micro de Sayouba Traoré il y a une quinzaine d'années. Elle avait travaillé d'ailleurs pour notre radio, elle avait produit deux émissions, Les Grandes Voix du Tiers-Monde et Les Chemins du Siècle, à la fin des années 70 et dans les années 80. On va revenir sur son parcours, sur ses écrits, avec notre invitée. Bonjour Eva Doumbia.
Bonjour.
Vous êtes metteuse en scène, vous aviez adapté une œuvre autobiographique de Maryse Condé, La vie sans phare, et vous étiez aussi l'une de ses amies. Est-ce qu'un souvenir en particulier vous revient aujourd'hui à l'annonce de sa disparition ?
Alors aujourd'hui, je suis sous le choc. En fait, on savait que ça allait arriver puisqu'elle était très très malade. Et la dernière fois que je l'ai vue, c'était il y a 3 semaines. J'avais bien senti que c'était justement la dernière fois que je la verrais. Je me souviens de la première fois qu'on s'est parlé, c'était en 2012, au moment de la sortie du livre La vie sans phare, qui pour moi était un livre important, qui est un livre important. Et je me rappelle lui avoir posé une question sur ses goûts, que je venais de lire aussi, parce que j'ai découvert Maryse, l'écriture de Maryse Tard. Je savais qu'elle existait, mais je tournais autour de son travail sans la lire.
Ses goûts qui avaient été publiés en 1984.
En 1984, tout à fait. Et en fait, je lui ai posé une question sur ses goûts. Je lui ai demandé comment ça se fait que c'est autant documenté. Elle m'avait répondu, c'est parce que c'était une thèse d'histoire que j'ai transformée en roman. Et par la suite, nous avions des amis en commun, nous avons des amis en commun à Marseille, qui avait dîné avec elle et elle cherchait une metteuse en scène ou un metteur en scène pour travailler sur La faute à la vie, une de ses pièces de théâtre. Et ces personnes-là, Lucie et Mona, lui ont dit « Nous, on connaît une metteuse en scène ». Elle a répondu « Je sais qui c'est la femme qui m'a posé la question sur ses goûts à l'Alcazar, qui est la bibliothèque de Marseille ». Et en fait, je ne m'étais pas présentée, donc il y avait quelque chose d'assez étonnant. Et puis, j'ai des tas de souvenirs avec Maryse, hein, de sa relation à la nourriture, de notre amitié, du fait qu'elle m'ait dit un jour « tu devrais écrire ». J'écrivais un peu hein, déjà, mais on va dire que c'est une des personnes qui m'a poussée à cesser d'adapter les textes des autres pour écrire mes propres histoires. Voilà, j'ai beaucoup de tendresse et pour elle. Je pense beaucoup à Richard qui va être très...
Son mari,
Richard, que je n'ai jamais vu Maryse sans Richard. Je pense beaucoup à Sylvie, Leïla, Aïcha, ses filles. Au moment où on a adapté La vie sans phare, à cette rencontre entre Astrid Bahia, qu'elle aimait beaucoup, dont elle avait beaucoup aimé l'interprétation, elle, chez elle, la toute première lecture de La vie sans phare, de l'adaptation de La vie sans phare, chez Maryse et son émotion. Et puis...
Comment est-ce que vous aviez travaillé ensemble sur cette adaptation ?
En fait, c'était très étonnant. J'y ai pensé ce matin parce que je me suis dit, à ce moment-là, ce qui me semblait compliqué, c'était d'adapter quelqu'un que non seulement je connaissais, mais qui était en train de devenir une amie que j'aimais et qui était vivante, en fait. C'était comment trouver, comment être le plus juste possible pour la raconter. Ce qui nous a un peu aidés, en fait, c'est que quand, dans l'adaptation, elle parle d'elle à un certain âge, et la dame que je connaissais, mon amie, était quelqu'un de plus âgé, en fait, beaucoup plus âgé. Donc, ça permettait aussi d'imaginer comment avait été Maryse à ce moment-là. Elle a été très bienveillante. très très bienveillante, je crois. Et elle a dit un jour ce qui m'a permis d'accepter l'adaptation et d'accepter de me voir représentée sur scène, c'est parce que j'aime beaucoup cette actrice.
Et dans cet ouvrage, elle raconte sa vie, une vie qui a été vraiment marquée par beaucoup de combats, des combats en tant que femme noire, qui a été confrontée toute sa vie à beaucoup de stéréotypes.
C'est une femme libre, Maryse Condé. C'est-à-dire que c'est compliqué de la définir parce que c'est quelqu'un qui se définit pas, qui se définissait pas elle-même, qui disait bon, je suis guadeloupéenne, mais qui pouvait dire une chose et son contraire dans la même période, de la même manière qu'elle a plusieurs langues aussi, qu'il y a plusieurs langues d'écriture. C'était quelqu'un de fondamentalement libre, et c'est ça qui m'avait beaucoup intéressée dans La vie sans phare. C'était ce récit d'émancipation de femmes, et c'était ce récit aussi d'émancipation de femmes noires, mais sans jamais s'identifier comme telle. Il n'y avait pas quelque chose de militant, en fait.
Et puis avec une position qui différait de certaines grandes figures, comme par exemple Aimé Césaire ou Frantz Fanon, qui ont développé le concept de négritude. Elle, ça n'était vraiment pas une position qu'elle adoptait.
Non, parce que la vie de Maryse Condé était beaucoup liée à son identité de femme aussi. Beaucoup à son identité de femme, de mère, de la difficulté de la maternité. Moi, je me souviens que quand je lisais La vie sans phare, je m'identifiais à elle sur ce qui est compliqué quand on est femme artiste aussi, la culpabilité qu'on peut éprouver quand on laisse son ou ses enfants, en fait, pour aller travailler.
La place de femme, et puis évidemment, le fait d'être noire. Maryse Condé avait d'ailleurs acquis une grande notoriété aux États-Unis, où elle a contribué à ce qu'on appelle les Black Studies sur la condition des Noirs.
Tout à fait. Alors c'était assez dingue parce que autant par moment ça m'est arrivé de parler avec des gens qui étaient pourtant qui s'intéressaient à la littérature, même des auteurs qui n'avaient jamais entendu parler de Maryse Condé en France, alors qu'aux États-Unis c'était absolument impossible. Dès qu'on parle de Maryse Condé, tout le monde sait qui c'est, en fait. Mais sur le continent africain aussi, c'est-à-dire que finalement je me suis aperçue que dans le monde sahélien, en fait, les gens pensaient qu'elle était sahélienne.
Parce qu'elle y avait vécu d'ailleurs pendant plusieurs années.
Parce qu'elle s'appelait encore Condé.
Et qu'elle portait le nom de son premier mari. Je vous remercie beaucoup, Eva Doumbia, d'avoir été en ligne avec nous. Vous êtes donc une amie de Maryse Condé et vous aviez adapté son œuvre autobiographique, La vie sans phare,
au théâtre.
On peut
encore, je crois, voir aussi, puisque ça a été capté par. Par Axe Sud.
J'invite nos auditeurs à aller voir justement votre pièce, l'adaptation d'une de ses œuvres majeures de Maryse Condé. Ouais. Merci beaucoup.
Merci. Je vous en prie, merci.
De nouvelles images de chaos à Port-au-Prince, le claquement des balles filmé à distance par des habitants inquiets, les corps découverts par les passants laissés en pleine rue. La situation ne s'apaise pas, loin de là, et nous sommes en ligne pour en parler avec notre confrère directeur de l'agence Alter Press. Bonjour Godson Pierre.
Bonjour Anne.
On a encore entendu des tirs nourris dans la capitale hier.
Et durant la nuit et ce matin encore, ça continue dans plusieurs quartiers du Bas-de-Telma, par exemple, où les gens ont peur de sortir ce matin. Hier, au centre-ville de Port-au-Prince, comme dans diverses agglomérations périphériques, et dans la matinée d'hier, des corps sans vie de 4 hommes ont été découverts à Pétionville, périphérie est, des décès par balles dont on ignore les circonstances. Au centre-ville, entre-temps, les bandits continuaient de semer la pagaille, attaquant, entre autres, le petit séminaire collège Saint-Martial, qu'ils ont tenté d'incendier. Des dégâts considérables ont été enregistrés.
Les violences donc se répètent et la transition politique, elle, piétine. On attendait la mise en place du Conseil présidentiel de transition hier, mais le gouvernement sortant est accusé de traîner les pieds.
Dans l'opinion, on estime que les délais s'allongent. En effet, de Conseil des ministres en Conseil des ministres, le gouvernement démissionnaire a finalement annoncé hier qu'un brouillon de décret officialisant le Conseil présidentiel intérimaire est en préparation. Le Conseil des ministres dit souhaiter la création d'une commission mixte entre les sortants et les entrants afin de favoriser une passation apaisée et rapide des responsabilités. Au cours de la journée, la question a été évoquée lors d'un échange entre le nouvel ambassadeur américain Américains à Port-au-Prince, Dennis Bruce Hankins, et le ministre des Affaires étrangères, Jean-Victor Généus, ainsi que le ministre de l'Économie et Premier ministre par intérim, Michel Patrick Boisvert.
Et puis certains chefs de gang disent aussi vouloir jouer un rôle dans cette transition politique. Et leurs messages, qui ont été largement relayés sur les réseaux sociaux, posent la question de l'avenir de ces groupes criminels. Vous y consacrez un article, Godson Pierre.
Dans les communications sur les réseaux sociaux, ils réclament leur place dans le processus de négociation pour la sortie de crise. La question de l'amnistie des crimes commis par les gangs est introduite dans le débat public alors que de multiples voix font valoir la nécessité que les bourreaux soient mis en face de leurs victimes dans une démarche de justice, de réparation et de pacification de la société. Pour le politologue Joseph Harold, hier, dialoguer avec les gangs, ce serait justifier leurs actes criminels, ce serait le plus grand mal qu'on puisse faire à la société, moralement, politiquement et idéologiquement.
Merci beaucoup Godson Pierre. Vos analyses, vos articles sont à lire sur votre site alterpress.org.
Radio France Internationale, las voces del mundo.
Ángel Manuel Manero Campos, jura usted por Dios y la patria. Morgan Nicole Quero Jaime.
Six nouveaux ministres ont prêté serment hier au Pérou après la démission de 6 de leurs collègues et la presse y revient largement, Christophe Paget.
Oui, les changements de ministres, note La Repubblica, interviennent juste avant le vote d'investiture du nouveau Premier ministre Gustavo Adrienzen et de son gouvernement. Et surtout, écrit El Comercio, dans le contexte de l'affaire Rolex, une enquête ouverte contre la présidente pour enrichissement personnel illégal après la publication par la presse d'une série de photos la montrant arborant différentes montres de luxe entre 2021 et 2022, alors qu'elle était ministre. Mais selon El Buho, ces changements au gouvernement ne résultent apparemment pas d'une crise de cabinet, contrairement à l'enquête qui vise la présidente. Un parlementaire indépendant a affirmé au quotidien que le nouveau Premier ministre les avait prévenus de ces changements avant que le vote de confiance ne soit demandé. Pour autant, dans cette vague de départs ministériels, on note celui du ministre de l'Intérieur, Victor Torres.
Et d'ailleurs, la presse tire aujourd'hui encore à boulets rouges sur Victor Torres.
Oui, la seule chose que l'on puisse reprocher à son départ, c'est qu'il ne soit pas arrivé plus tôt, écrit dans son éditorial El Comercio. D'ailleurs, plusieurs groupes parlementaires, écrit Le Quotidien, avaient demandé son départ. Expresso parle de sa mauvaise gestion, de la volée de critiques qu'il a reçues en raison du taux de délinquance alarmant. Et estime que le ministre avait bien conscience qu'en restant au gouvernement, il aurait compliqué le vote d'investiture au Congrès. En donnant les raisons de son départ, il parle lui de problèmes familiaux, de santé. Victor Torres est revenu sur l'affaire qui passionne le pays. Je dis au pays qu'il doit laisser la dame, la présidente Boluarte, gouverner. Les Rolex ne sont qu'une distraction. Dina Boluarte, note le site de Radio Programas del Pérou, doit être entendue ce mardi devant la commission fiscale du Congrès pour parler de cette affaire.
Toujours au Pérou, Christophe, un sondage alarmant est publié sur la violence et les adolescents.
97% des adolescents interrogés par la Fondation contre la faim justifient et normalisent les comportements violents dans leurs relations sentimentales. Une situation, écrite Diario Correo, qui contribue sans aucun doute à la violence contre les femmes et aux exécrables féminicides qui continuent de faire des victimes dans tout le pays. Le sondage réalisé sur plus de 1300 étudiants révèle que 88% des jeunes approuvent l'utilisation d'insultes dans une discussion et 71% reconnaissent que lorsqu'ils sont en colère, ils hurlent sur la personne avec laquelle ils sont en couple. Diario Correo rappelle que l'enchaînement de violences qui mène au féminicide commence par des disputes violentes et des violences verbales et psychologiques qui sont souvent considérées comme normales dans une relation. Par ailleurs, Anne, 74% des adolescents pensent qu'un homme doit s'occuper de la tenue vestimentaire de sa compagne. 71% considèrent qu'il est normal de connaître le mot de passe du téléphone portable de son partenaire. Et 59% déclarent avoir été victime d'abus.
Christophe Paget, on vous retrouve dans un instant. Avant cela, un mot du Venezuela où le très populaire youtubeur Oscar Alejandro, dont nous vous parlions hier, a été libéré. Il avait été arrêté dimanche pour suspicion d'activités liées au terrorisme à cause d'une vidéo où il appelait à faire sauter les serveurs des banques. « Je n'ai jamais voulu appeler à la terreur », a dit le youtubeur après sa libération. Il dit avoir vécu les pires 32 heures de sa vie. Et puis la Colombie durcit le ton à son tour Concernant la disqualification de la candidate de l'opposition Maria Corina Machado pour la présidentielle au Venezuela, quelques jours plus tôt, le président brésilien avait estimé lui aussi qu'il s'agissait d'un événement grave. Le Brésil, justement, a marqué hier les 60 ans du coup d'État militaire. Le président de gauche, Lula, a décidé que ce moment majeur de l'histoire du pays ne serait pas commémoré pour ne pas se mettre à dos les militaires, selon certains commentateurs. Et la société brésilienne ne décolère pas, Christophe.
Oui, ignorer la dictature au nom de la pacification nuit à l'avancement de la société. S'insurge le groupe Rights Now, qui rappelle que le silence sert toujours ceux qui ne veulent pas que leurs actions soient remises en question, dans un communiqué repris par Folha de São Paulo. Dans Carta Capital, le politologue Josué Medeiros rappelle que le président place la lutte contre les inégalités au centre de son troisième mandat. Or, il n'est pas possible de comprendre et de surmonter les inégalités au Brésil sans évoquer la dictature militaire, le régime étant responsable de la radicalisation et de la consolidation de toutes les inégalités qui pénalisent le peuple.
Et cette décision de Lula, elle intervient alors que la Cour suprême du Brésil réaffirme que la Constitution ne permet pas d'intervention militaire.
La Cour examinait un recours déposé en 2020 par le parti de Lula. Le parti des travailleurs s'inquiétait, explique Carta Capital, de l'interprétation d'un article de la Constitution par certains juristes réactionnaires, selon laquelle l'armée serait un pouvoir modérateur dans le pays. Les juges de la Cour, écrit Estadao, ont suivi le rapporteur Luis Fux, qui souligne que les différents corps de l'armée ne sont pas un pouvoir, encore moins un pouvoir modérateur, mais des institutions soumises au pouvoir civil. C'est écrit clairement dans l'article 142, écrit une éditorialiste d'Estadao. Mais en période de délire putschiste, ce n'est pas mal non plus de rappeler l'évidence.
Christophe Paget, votre revue de presse à retrouver sur internet rfi.fr.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec nos confrères de La Première. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Anne.
On va reparler avec vous de Maryse Condé, née à Pointe-à-Pitre en 1934, décédée dans le Vaucluse en France en 2024. Et entre ces deux dates, la vie et l'œuvre d'une grande dame de la littérature francophone.
Elle fut journaliste à la BBC, mariée une première fois en Afrique. Elle a d'ailleurs conservé le nom Condé de son premier mari, guinéen, universitaire aux États-Unis et surtout, bien sûr, écrivaine francophone, célèbre et célébrée, dramaturge, romancière, auteur de livres pour la jeunesse. Elle fut aussi, c'est peut-être moins connu, une militante fervente de la cause indépendantiste, indépendance pour son île natale, mais plus généralement pour les Antilles et la Guyane. Écoutez ce qu'elle en disait en 1997 au micro de Dominique Rodreur. C'était à l'époque sur les ondes de RFO.
La génération à laquelle j'appartiens collectivement n'apparaît ici, puisque nous nous retrouvons en 97 avec une Guadeloupe encore département français d'outre-mer, une Martinique aussi, une Guyane également, et que finalement, nous qui avions rêvé d'avoir un jour un drapeau, un passeport, des éléments de souveraineté, nous n'avons rien du tout. Ça ne veut pas dire qu'il faut démissionner. Je crois que dans une situation qui est apparemment désespérée, comme la situation antillaise, il faut continuer à dire non. Il faut continuer à dire nous sommes différents, nous ne sommes pas français, nous appartenons à une histoire différente, à une expérience différente. Il faut essayer, ce qui est finalement mon rôle premier, de dire cela dans des livres qui parlent peut-être à un grand nombre et qui expriment une forme de combat qui peut-être n'est pas militante comme celle à laquelle j'avais rêvé, mais qui quand même est importante.
Maryse Condé, en 1997, 27 ans plus tard, pardon, la native de Pointe-à-Pitre s'en est allée et l'émotion était palpable en Guadeloupe ce matin, mais aussi en Guyane et en Martinique. Écoutez d'ailleurs la réaction du chroniqueur littéraire de La Première Martinique, Steve Gadet.
Maryse Condé, j'ai rencontré sa voix quand j'étais étudiant. J'ai commencé par ses grandes sagas. Mais j'ai eu un faible au fur et à mesure que je la découvrais pour ses récits de vie, où elle malaxait la vie en Guadeloupe. Elle m'a montré en tant qu'écrivain qu'on pouvait faire de la belle littérature, de la grande littérature à partir de ce que nous sommes, sans se fermer pour autant au monde. J'ai aussi beaucoup d'admiration pour la carrière internationale d'universitaire qu'elle a menée, quand l'université française ne l'a pas reconnue ou voulu d'elle. Les grandes universités aux États-Unis se sont arrachées à ses cours, sa présence, sa compréhension du monde. Donc, je garde sa voix au fond de mon cœur, chaleureusement, même si son corps ne sera plus avec nous.
Bon après-midi, Anne. À demain.
Merci Benoît Ferrand et merci à tous d'avoir été avec nous. RFI Midi, c'est terminé pour aujourd'hui. À la réalisation ce mardi, Vincent Biteau, rédaction en chef François Ballarin. On se retrouve nous demain à 11h, temps universel, pour 2h30 d'informations sur tous les continents avec nos correspondants, nos envoyés spéciaux et nos invités. Passez une très bonne journée sur RFI.
Ce mardi sur RFI.
Comment la science infuse et se diffuse.
Autour de la question avec Caroline Lachowski.
Bienvenue autour de notre table ronde mensuelle avec mes consoeurs et confrères de la presse scientifique. Venus avec quelques exemplaires de leur magazine pour vous les faire gagner. Science et Avenir, Epsilon, Science et Vie, Ciel et Espace pour la science, à vous de jouer et d'écouter pour les remporter.
Autour de la question avec Caroline Lachowski. Tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.